Alors, c'est parti. Très bien. Alors, les amis, mon décor est fantastique et magnifique, mais là, je vous entends et vous m'entendez, donc c'est le principal. Alors, les amis, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Nous sommes au XVIe siècle, à Tzfat. Et comme je l'ai dit juste avant que ça coupe, puisqu'on parle de XVIe siècle et qu'on parle de Tzfat, évidemment, vous vous dites déjà, vous pensez déjà au Harizal. Non, on n'est pas encore au Harizal. Il semblerait que pour arriver à la Torah du Harizal, on aura besoin d'arriver à la semaine prochaine. Car aujourd'hui, nous allons parler de la génération qui vient clore, eh bien, 1500 ans de Kabbalah. Je vais vous dire mieux que ça, 2000 ans de Kabbalah. Si on y réfléchit bien, eh bien, on a eu une transmission, on a dit, de la Torah à la Kabbalah depuis l'arrêt de la prophétie. L'arrêt de la prophétie, c'était plus ou moins moins 500. Eh bien, nous sommes en 1500 dans notre cours. Ça fait 2000 ans que la transmission de la Torah Tassod a commencé et nous arrivons aujourd'hui à sa conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire à sa conclusion? On est en 1500. Aujourd'hui, on est en 2000. Il y a encore des gens qui sont des Mekoubalim. Nakhon. Mais tout va changer à partir de la génération qui suit le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le cours d'aujourd'hui, on va terminer avec un rabbin qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero et peut-être un autre qui s'appelle Rabbi Eliyahu Dividas, on verra bien. Mais en tout cas, ces rabbins-là marquent la fin d'une ère. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que après eux, arrivera un monsieur qui s'appelle Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi à Harizal qui va métamorphoser l'enseignement de la Kabbalah. Et on parlera d'ailleurs de Kabbalah avant le Hari et de Kabbalah après le Hari. Donc, le Harizal, ce sera pour la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, parlons de cette génération du XVIe siècle, à Tzfat, qui vient compiler toute la Kabbalah depuis l'arrêt de la prophétie. Et le premier personnage qui est très important dans cette réalité-là, eh bien, c'est un homme qui s'appelle Rabbi. Vous le connaissez tous, hein. Tout le monde le connaît. Alors, tout le monde le connaît peut-être pas pour tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on le connaît, mais on ne lui fait pas vraiment justice. Tellement il a fait de choses et tellement il a écrit de choses. Mais non, on le connaît pour quelque chose que nous, on chante tous les Shabbats. Évidemment, je parle de Rabbi Shlomo Alkabetz. Eh oui, Rabbi Shlomo Alkabetz. Alors non, ce n'est pas que les Hadodis. Oui, bien sûr, c'est les Hadodis. Mais Rabbi Shlomo Alkabetz, c'est d'abord quelqu'un qui va écrire des commentaires, d'abord des Megillot du Tanakh, et ensuite, il va écrire un commentaire de tout le Sefer HaZohar. Donc, ce n'est pas non plus n'importe qui. Et Rabbi Shlomo Alkabetz est connu pour son Lechadodi, ce qui va tout de suite m'amener à l'idéal de cette génération. Car je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'étudier Lechadodi, parce que c'est bien beau de chanter, mais ce serait pas mal aussi de l'étudier. Eh bien, Lechadodi, les amis, c'est tout simplement le chant, l'appel de la Géoula. Eh oui! Prenons deux secondes. Alors, les deux premiers couplets de l'Echadodi sont évidemment centrés sur Shabbat, mais après, Mikdash Melech Ir Melucha, on parle de Jérusalem, Kumitzei Mitocha Fecha, Rav Larchevet Behemekabacha, ça suffit de s'asseoir dans la vallée des pleurs, il est temps de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on va dire juste après. Itnaari me'afar kumi. On parle au peuple juif, à la terre d'Israël, et on dit ça y est, enlève ta poussière de l'exil, lifshi bigdei tifarter, revêt tes vêtements d'apara. C'est qui tes vêtements d'apara? Nous dit Rabbi Shlomo Alkabetz lorsqu'il parle à la terre d'Israël, eh bien il dit c'est ami, mon peuple. En d'autres termes, nous sommes dans une génération qui appelle la Géoula. Alors, ok, qui appelle la Géoula, mais et concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, eh bien, ce Rabbi Shlomo Alkabetz? Eh bien, Rabbi Shlomo Alkabetz, tout d'abord, nous vient lui aussi, il fait partie des familles qui sont des Mekourachés de Sfarad. Il va passer un temps à Salonique, c'est là-bas qu'il va étudier chez Rabbi Yosef Taïtitzak, donc ça, on a déjà étudié. Et il va arriver finalement à Tzfat. Là-bas, il devient très proche, pour ne pas dire Talmid Haver, d'un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, qu'on a évoqué la dernière fois. Avec Rabbi Yosef Karo, eh bien, ils vont passer ensemble un Leil Shavuot. Ils vont passer ensemble une soirée de Shavuot et il dit, je cite, Ziknanu Borenu Venishma et Kol Metaber Befi Achasid Nero Yair Rabbi Yosef Karo. Rabbi Shlomo Alkabetz témoigne que lorsqu'il a passé la soirée de Shavuot avec Rabbi Yosef Karo, eh bien, ils ont entendu le Malach lui parler, le fameux Magid Mecharim. Et à ce moment-là, eh bien, dit Rabbi Shlomo qu'il a compris du Malach qu'il fallait mettre en place quelque chose de fondamental durant cette soirée de Shavuot. C'était quoi cette chose fondamentale à mettre en place? Eh bien, Rabbi Shlomo Alkabetz va être celui qui va mettre en place ce qu'on appelle Tikkun Leil Shavuot. Attention, Tikkun Leil Shavuot, je ne parle pas de ce que nous faisons dans nos communautés à Shavuot. Ce que nous faisons, enfin, je dis nous, dans le monde ashkénaze ou dans le monde, on va dire, pas hardcore séfarade, eh bien, ce qu'on a l'habitude de faire à Shavuot, c'est des cours. Et il y a des rabbins qui succèdent et ils font des cours de Torah la soirée de Shavuot. C'est très sympathique, ça a bien pris, il y a plein de gens qui viennent étudier la Torah le soir de Shavuot, c'est super. Mais ce n'est pas du tout ça le Tikkun Leil Shavuot. Tikkun Leil Shavuot, on retrouve ça dans les synagogues séfarades, où il s'agit tout simplement de passer en revue toute la Torah, que ce soit la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé ou Torah Tassod. C'est-à-dire qu'on va prendre des morceaux choisis de chacune de ces trois torotes pour que l'homme qui se prépare au Mahamad al-Sinaï eh bien, se prépare avec tous les aspects de la Torah. Eh bien, les amis, c'est peut-être ça aussi l'enseignement de Rabbi Shlomo Alkabetz. Nous sommes, on l'a dit, dans la génération qui vient conclure eh bien, 2000 ans de Kabbalah. Ça doit se conclure par deux dimensions. La première, Géoula, et la seconde, l'entièreté de la Torah. C'est ça qu'on va apprendre de Rabbi Shlomo Alkabetz. Parce qu'il n'est pas possible de parler de Torah Tassod, Bakalout. Alors vous allez me dire, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Oui, Nachon. Mais toute la Torah de la Kabbalah n'a que pour de nous permettre de sortir de Galut. Je vous rappelle ce qu'on avait dit au tout début de nos enseignements, lorsqu'on avait parlé de, parmi les premiers, les Koubalim, lorsqu'on avait parlé de Shmaya Vaftalion, c'est-à-dire les maîtres de Rabbi Akiva, qui avaient dit « Hizaharu bedivrechem shema tachovu chovat galut » c'est-à-dire « Mettez le Zohar bedivrechem, Torah Tassod, pour pouvoir sortir de l'exil. » Donc Rabbi Shlomo Alkabetz vient dans une génération où les gens pensent que ça y est, c'est le moment de pouvoir sortir d'exil. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à cette compréhension-là? Eh bien parce que, je vous le rappelle, on l'avait, je crois, évoqué la dernière fois, nous sommes dans une génération où il y a un changement politique majeur, puisque d'un côté, l'Empire ottoman vient de naître, mais surtout, à sa tête de l'Empire ottoman se trouve un juif. Don Yosef Nassi et vont permettre aux juifs d'Israël eh bien, de trouver une certaine stabilité. Ils vont permettre aux juifs de s'installer dans la ville de Tibériade, dans la Pâte, qu'ils vont exonérer d'impôts. Et donc, il y avait à l'époque une véritable réflexion de pourquoi ne pas même créer un État pseudo-indépendant dans la Galilée. On voit que tout ce texte-là amène les Chachamim de cette époque-là, les Mekoubalim particulièrement, à se dire qu'effectivement, ça y est, on est arrivé à quelque chose. Alors, bon, très bien. Rabbi Shlomo Alkabetz, c'est donc, on a dit, la Géoula, et l'enquête de...
Je suis revenu.
Est-ce que vous pouvez faire par téléphone, peut-être? Oui.
Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Ah, c'est bon? Je suis revenu? Oui, super. Alors, c'est bien. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a bugué. En tout cas, nous sommes donc toujours dans cette époque-là et on a dit, à côté de Rabbi Shlomo Alkabetz, il y a un autre chacham extraordinaire qui s'appelle comment s'appelle-t-il ce chef du monde ottoman? S'il vous plaît, doucement pour ses noms. Ah, excusez-moi. Ce chef de l'Empire ottoman, enfin, il n'est pas le chef, il n'est pas le sultan, il est le premier ministre. Il s'appelle Don Yosef Nassi. Don Yosef Nassi. Il a une tante qui s'appelle Donna Grazia Nassi, qui, en fait, c'est elle qui tire les ficelles parce que c'est elle qui a la fortune. Elle a énormément d'argent et donc elle va aider énormément le peuple juif autant qu'elle peut le faire. D'accord ? Et donc, justement, Don Yosef Nassi, on va en reparler dans quelques secondes, grâce à cet autre personnage qui est enterré juste à côté de Rabbi Shlomo Elkabet, qui s'appelle Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, eh bien, il va s'illustrer. Il va s'illustrer de manière politique. Alors évidemment que c'est un Talmid Chacham Atzoum et que c'est un Mekoubal extraordinaire et qui va écrire des choses. Et dans deux secondes, on va arriver devant sa Torah. Mais tout d'abord, il s'illustre de manière politique. Pourquoi il s'illustre de manière politique? En quoi il s'illustre de manière politique? Eh bien, tout simplement parce qu'en l'an 1556, il y a un événement qui va chambouler la géopolitique de cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe? En 1540, il y a dans la ville de Ancône, en Italie, des Juifs qui sont des Yehoudim Moumarim, c'est-à-dire ce sont des Juifs qui se sont convertis au christianisme sous l'Inquisition, mais qui ont recommencé à pratiquer leur judaïsme pas vraiment en secret. Maintenant, ils arrivent en Ancône. Le pape qui s'appelle à ce moment-là Paul III, eh bien, sait très bien que ce sont des faux chrétiens. Il sait très bien que ces juifs-là sont revenus à leur judaïsme. Mais comme la ville de Ancône a besoin d'argent et que ce sont des juifs très riches, eh bien, il est très content de les accueillir et ils peuvent tranquillement vivre leur vie. Seulement 10 ans plus tard, en 1551, je crois, eh bien, ce pape meurt. Il est remplacé par un autre pape qui s'appelle Paul IV. Et lui, il n'en a rien à faire. Il dit « Choum d'Abar, c'est des gens qui sont revenus au judaïsme, ils doivent être arrêtés et pendus ou alors mis sur le bûcher de l'Inquisition. » Et donc, tous ces juifs-là de la ville de Ancône vont être d'abord emmenés dans les prisons de l'Inquisition pour être condamnés à mort. À ce moment-là, Rabbi Moshe Mitrani, qui a des contacts avec la communauté juive de Rome et la communauté juive d'Italie, eh bien, est mis au courant de ce qui se passe. Il va lui-même faire le chemin jusqu'à Donne pour dire qu'il faut, eh bien, tout simplement, va mettre en place un kherem contre la ville d'Ancône. Oui, vous m'avez bien entendu. Un kherem, c'est-à-dire qu'il interdit à tous les navires de l'Empire ottoman de venir accoster à Ancône. Si bien que la ville et toute la région est en train de chuter de manière économique. C'est ce qui va amener, entre nous, à la mort du pape. Et une fois que le pape meurt, eh bien, certes, on n'aura pas réussi à sauver les Juifs, mais on pourra leur permettre de nouveau de réhabiter là-bas tranquillement. Et donc, le kherem sera levé. Donc, on parle de gens qui ne sont pas seulement dans le monde des sphères supérieures, mais qui, justement, parce qu'ils sont dans ces sphères supérieures, ont également une influence énorme, Baolam Hazé. Rabbi Moshe Mitrani, il va écrire plusieurs choses. Entre autres, il va écrire des tchouvot, près de 800 réponses des questions qui lui ont été posées au niveau de la halakha. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas seulement dans le monde de la Kabbalah, mais qui était aussi un très, très grand prophète. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Bet HaElohim ». Et dans le livre « Bet HaElohim », il va donner toute sa shita kabbalite et surtout, eh bien, il va expliquer l'importance de la tfila. Et c'est Rabbi Moshe Mitrani qui va, sans sourciller, dire clairement que la tfila n'est autre que de demander la définition de la tefila, demander à Dieu de remplir ce qui te manque. Voilà la définition de la tefila pour Rabbi Moshe Mitrani. Il ne s'agit pas de s'extaser devant le Créateur, il s'agit de demander à Dieu de remplir ce qui te manque. Et la grande demande de cette époque-là, le grand manque, eh bien, vous l'aurez compris, c'est la Géoula. C'est-à-dire que tous ces Juifs sont tout à fait conscients qu'ils vivent à la croisée des chemins, et donc, eh bien, ils demandent la Géoula, ni plus, ni moins. Donc voilà les amis, c'est de cela dont on parle. On est dans le fameux Tikkun Hatzot de l'histoire. Le Tikkun Hatzot de l'histoire. Eh oui. Et faisons un tout petit calcul, 1783, moins notre conception du jusqu'à l'an 6000, okay. Qui bereshit, altikra bereshit et la parachète, donc pour 6000 ans le monde a été créé, notre conception du monde, ça veut dire qu'après il va être détruit évidemment. Quoi qu'il en soit, si on va un petit peu en date goy, eh bien nous sommes à 217 ans de l'an 6000. Donc, je fais un tout petit calcul très très rapide, eh bien, ça veut dire qu'en 2240, ça sera l'an 6000. Jusque-là, je veux bien. 2240. Mais vous savez comme moi que les 6000 ans, eh bien, sont à couper en 1000, comme les 7 jours de la création. Qui est l'Elef Shanim Beyom Etmol, qui est l'Elef Shanim Beynecha, qui est Yom Etmol qui est Avor. Car nous dit le livre de Tehilim que 1000 ans pour nous, c'est comme un des jours de la création pour lui. En d'autres termes, nous avons chaque jour de la création qui est 1000 ans. Or, vous savez que les journées, c'est la nuit et le jour. Donc, il y a 500 ans de nuit et 500 ans de jour. Seulement, quand est-ce que termine la nuit? On pourrait dire avec le lever du soleil. Seulement, en vérité, la nuit commence à terminer à Chatzot Laila, c'est-à-dire au milieu de la nuit, au début de la fin de la nuit. Donc, encore une fois, je reviens sur mes mathématiques, eh bien, ça veut dire que les 1000 ans, c'est 250 ans de nuit et 750 ans de nuit qui vont vers la journée et journée. En d'autres termes, eh bien, si je prends 6000 moins 750, eh bien, je vais arriver au Tikkun Chatzot du dernier jour de la création, c'est-à-dire au début de la Géoula. Eh bien, si on revient en date Goy, eh bien, ça nous amène aux années 1500, pour être exact, 1491. Vous aurez compris donc que toute cette génération de Chachamim ressent que c'est le moment de la Géoula, que c'est le moment que ça commence, et donc, eh bien, chacun va mettre en place sa Torah pour justement arriver à cette dimension-là. Rabbi Shlomo Alkabetz, avec les Hadodi et, comme on a dit, cette entièreté de la Torah, pour ce qui est de Rabbi Moshe Mitrani, l'essentiel de la tefila, c'est demander ce qui nous manque. Or, qu'est-ce qui nous manque ? Rabbi Moshe Mitrani va également appeler Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira ? Perek Shira, c'est quoi ? Eh bien, c'est un petit livre qui a été écrit, d'après la tradition juive, par David Ameller, qui, lorsqu'il a terminé d'écrire Tehilim, a reçu un bonus de prophétie, et il écrit Perek Shira. Nous dit Rabbi Moshe Mitrani que Perek Shira est bien au-delà de Tehilim. Car Tehilim, c'est l'homme qui parle, alors que Perek Shira, c'est la création tout entière.
Rav, est-ce que vous m'entendez pas ?
Bon, est-ce que vous connaissez le Olam HaTzimtzum ?
On s'attache à Dieu, et c'est ça l'idéal de la Géoula. Donc, nous sommes vraiment face à des rabbanim qui sont en train de vouloir pas seulement enseigner, mais ancrer la nouvelle réalité du monde dans ce passage.
Bon, je suis désolé, ça bug beaucoup chez le Rav. Est-ce que tu m'as envoyé, Zachary, c'est le numéro pour le téléphone de Zoom? Non, tu sais, on peut avoir
Ouais,
ce truc sur le
exactement.
téléphone pour avoir que
Exactement.
l'audio.
Oui, c'est pas grave, il a que l'audio, mais au moins on a l'audio.
Non, mais là, tu m'as envoyé un PDF, toi. Attends, une seconde, hein, les amis, je suis désolé. C'est des soucis techniques, mais il faut qu'on demande au Rav Fison de ou être chez lui ou de donner un autre cours. Ça fait plusieurs fois déjà. Hop, une seconde. Hop, hop. Une seconde, les amis.
David, envoie le ce que je t'ai envoyé au.
Oui, tu m'as envoyé un PDF. Il faut que j'envoie le numéro de
Oui.
téléphone qui doit appeler.
Oui, envoie-lui.
Je l'envoie là, je le
Parfait.
trouve. Israël, voilà.
Il y a la liste des numéros. Et
Et
après.
je l'ai. Hop, je l'envoie tout de
Parfait.
suite. Rafison, hop, hop.
Et le meeting ID aussi, vous pouvez mettre aussi.
Rafison. Grave.
La magie du direct.
Voilà, il arrive. Mais voilà. Entre nous, les amis, le Rav n'est
Non.
pas là. Mais je vais lui demander de où il est chez lui et il y a un zoom normal ou on ne fait pas parce qu'on a un autre Rav. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que ça bug comme ça. C'est compliqué.
Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison.
Alors, ah voilà.
Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je pensais pas que ça ferait ce bug-là. Bon, en tout cas, si ça rebug, je prends le numéro de téléphone là, que tu m'as donné.
Super.
Ben, ça a l'air. Donc, bon, en tout cas, on est arrivé à Rabbi Moshe Mitrani, on a terminé. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas parler ni de Rabbi Shlomo Alkabet et de Rabbi Moshe Mitrani sans parler, eh bien, tout simplement, de leur patron, de leur maître. Qui est leur maître? Qui est le Rosh HaYeshiva, le Rosh HaMekoubalim à ce moment-là? Eh bien, il s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. Et là, nous allons parler un tout petit peu d'un monsieur qui s'appelle le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est finalement celui qui est considéré par tous à cette époque-là comme étant le maître de tous les kabbalistes. Et j'ai dit, on est dans la génération qui vient clore, eh bien, l'enseignement de la Kabbalah depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Le Ramak est celui qui vient clore l'enseignement de la Kabbalah depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui est Rabbi Moshe Cordovero? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a écrit? Eh bien, il a écrit énormément de choses. Il a écrit énormément de choses. Par exemple, Sefer Elima, ou alors, il va écrire également un livre que tout le monde connaît peut-être, qui s'appelle Tomer Dvora, qui est un livre de Moussar al-Pi HaKabbalah. Il va écrire également un livre qui s'appelle Shiur Koma. Il va écrire énormément de commentaires du Tikkun Zohar. On parle de quelqu'un qui va compiler tout ce qui s'est fait jusqu'à lui au niveau de la halakha. Ni plus ni moins. Hein. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'extrêmement, extrêmement fort. Et Rabbi Moshe Cordovero, on pourrait résumer toute sa shita kabbalite. Il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim, c'est le livre le plus connu de Rabbi Moshe Cordovero, Pardes Rimonim, dans lequel il développe toute sa shita kabbalite. Eh bien, on pourrait résumer toute sa shita sur deux points. Le premier point, Ein Sof. Ein Sof. Pour lui, tout l'idéal du judaïsme doit se comprendre de la façon suivante. C'est le Ein Sof, c'est Ribono Shel Olam, qui ne peut être, qui n'est que le seul à pouvoir influer sur chaque chose. En d'autres termes, chaque chose de la création de ce monde, du peuple juif, de ce que vous voulez, eh bien, est directement influencé par Koach HaEinsof, ce qui veut dire que en chaque chose, eh bien, on peut dévoiler également cette dimension de l'infini. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la Torah du Ramak, c'est Kol Nimtzaim. C'est-à-dire que s'il y a le Ein Sof, eh bien, il y a Riboui. C'est-à-dire que pour lui, l'affluence de toutes les créatures n'est pas un frein pour comprendre le Créateur, mais au contraire, ce n'est qu'en comprenant toutes les créatures qu'on peut arriver à comprendre le dévoilement, c'est pas du Créateur. Donc il s'agit ici d'une Torah extrêmement profonde. Le Harizal ira dans un autre chemin complètement. On a tendance à dire de Ramak qu'il est le maître du Harizal. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Ils ont étudié ensemble, d'abord très peu, uniquement pendant 8 mois. Mais il semblerait que le Hari, bien que le respectant énormément, a décidé de prendre un chemin complètement différent. Mais ça, nous le verrons, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, quand je serai chez moi tranquillement, avec une bonne connexion, parce que, voilà. Quoi qu'il en soit, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero à Ramak, donc, est celui qui va compiler, comme on l'a dit, tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Maintenant, pourquoi est-ce que le Ramak n'est pas aujourd'hui celui qui est étudié en numéro uno? Eh bien, peut-être justement parce que sa Torah ne s'est pas traduite dans le langage de son époque. Et c'est ça le problème. Il a une Torah qui, comme elle vient compiler tout ce qui a été fait depuis 2000 ans, eh bien, semble ne pas parler le langage du 16e siècle, du 17e siècle. Chose que le Hari va faire complètement différemment, puisque lui, il va inventer un nouveau langage pour adapter les concepts de la Kabbalah à sa Torah. Et ça, encore une fois, on le verra la semaine prochaine. Mais Rabbi Moshe Cordovero, finalement, eh bien, sera un de ceux qui va recevoir la simicha de Rabbi Yosef Karo, et il est véritablement celui qui vient conclure 2000 ans de tradition. Et puis, il a un élève. Il a un élève, Rabbi Moshe Cordovero. Un élève absolument incroyable. Alors, je vous ai dit, dans le livre Tomer Dvora, Manitou disait qu'il vaut mieux étudier Tomer Dvora que Mesilat Yesharim. Alors, on n'est pas encore à l'époque du Ramchal, on arrivera au Ramchal dans quelques temps, mais évidemment qu'on peut se dire, mais c'est bizarre, Mesilat Yesharim, tout le monde étudie. Nous, ici, à la Yeshiva Online, on a fait, pendant un an, on a fait cours sur Mesilat Yesharim, on n'a pas fait Tomer Dvora, comment c'est possible? En fait, Mesilat Yesharim, c'est un livre qui met énormément l'accent sur la Chova et Ilchatit, sur l'obligation de la Halakha. Alors que le livre Tomer Dvora parle de Nefesh Ha'adam. C'est un livre de Moussar, mais qui vient corriger le Nefesh et pas forcément les actions. Et donc, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus accessible. Encore une fois, le livre Tomer Dvora, hein, aujourd'hui, fait partie intégrante de la liste des livres de Moussar du peuple juif. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à quelqu'un c'est quoi les livres du Moussar juif, on va te dire Chovot al-Bavot, on va te dire Messilat Yesharim, on va te dire aussi Tomer Dvora, évidemment. Lorsqu'on parle de l'enseignement du Ramak, eh bien, on va parler que Asagata Elohut, eh bien, ne peut arriver que derrière Seder Animtsaim. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Seder Animtsaim. Yefshar, nous dit le Ramak, Ella belimud achochma ha'amitit, donc ça on sait très bien que achochma ha'amitit c'est Torah Kabbalah, ve'atmada bechavana reuya b'maase ha'mitzvah ve'atorah ve'atfila, az vaday yityached kutsha berichu ve'shrinte ve'yashlim avodato. Et donc de quoi il parle? Il dit nous devons avoir une hamaka. Ça ne veut pas dire évidemment que le Rama qui fait la halakha, c'est pas le problème. Mais il te dit, tu dois avoir une hamaka, c'est-à-dire avoir une profondeur pour intégrer les intentions plus que les actions. Pour lui, le poids ne doit pas être donné à l'action, parce que l'action, c'est évident, il faut le faire, mais le poids doit être donné à l'intention. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir réunir, Machinikra Kutcha Berichu, Dieu, Veshrinte, le peuple juif. Donc, très bien. Ça, c'est l'enseignement du Ramak. Son élève, il y a un élève qui devient « the » élève du Ramak, qui va hériter donc, non seulement de Reshut HaYeshiva, mais qui va hériter également de ses livres et qui va hériter de l'aura du Ramak, qui s'appelle Rabbi Eliyahu di Vidas. Rabbi Eliyahu di Vidas. Et alors là, on sort un tout petit peu de Tchad, puisque Rabbi Eliyahu di Vidas, rapidement à Hevron, Rabbi Eliyahu di Vidas, il va d'ailleurs mourir à Hevron, et il est enterré dans le vieux cimetière juif de Hevron. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'aller visiter, puisque quand on va à Hevron, en général, on s'arrête uniquement à Maharat HaMakpela. Mais il faut savoir qu'il y a deux cimetières juifs avec des talmidei chachamim atsumim ou dividas. Rabbi Eliyahu di Vidas va écrire un livre qui est commence à bugger. Ah, où est-ce que ça marche comme ça? Ce qu'on appelle le numéro vert. Ça reprend. Nous sommes, n'oubliez pas, dans la Startup Nation, et donc la technologie, c'est quelque chose qui nous connaît en Israël.
Bon, les amis, je crois que je vais demander au Rav de passer sur le téléphone parce que ça bug beaucoup trop. Alors attendez, je vais l'appeler tout de suite.
Évidemment, quoi qu'il en soit. Donc je dirais, va être extrêmement étonnamment répandu dans tout le monde juif. Je me souviens de ce livre. Encore une fois, je dis, c'est de la Kamala pure et simple.
Ah, Rav, ça a sauté, alors on a perdu 2 minutes.
On m'entend pas? Non. Bon, alors je reviens sur Rabbi Eliyahu di Vidas. Rabbi Eliyahu di Vidas, donc on a dit, vous avez compris, vous avez reçu que c'était l'héritier du Ramak? Ok. C'est l'héritier du Ramak. Et j'ai dit, lui, il va partir à Hevron. Entre parenthèses, il est enterré à Hevron, dans le vieux cimetière juif de Hevron. Et je disais, c'est dommage parce que c'est un endroit qu'on ne visite pas. On ne va pas sur ce cimetière-là. En général, quand les gens ils font une journée à Hevron, ils vont uniquement à Maharat HaMakpela. Bon, on les comprend, hein, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il faut savoir qu'à Hevron, il y a un vieux cimetière juif dans lequel sont enterrés des géants, y compris Rabbi Eliyahu di Vidas. Il écrit un livre, donc on a dit, qui s'appelle Reshit Chochma. Et Reshit Chochma est un livre incroyable. Je dis, c'est assez absurde de voir à quel point il a été accepté et à quel point il est répandu. Il est répandu partout. Et c'est assez incroyable. Moi, juste avant que ça coupe, je disais, même moi, à l'école primaire à Metz, eh bien, on nous a enseigné le livre Reshit Chochma. J'y comprenais rien, évidemment, mais je veux dire, jusque-là, on est arrivé avec ce livre-là, et c'est assez incroyable. Maintenant, Rabbi Eliyahu di Vidas va rajouter un mémad, une dimension qu'on n'avait pas vue, du moins pas autant appuyée jusqu'à lui. C'est ce qu'on appelle la Kabbalah extatique. Qu'est-ce que ça veut dire, la Kabbalah extatique? Eh bien, pour Rabbi Eliyahu di Vidas, l'émerveillement du monde fait partie de Avodat Hashem. C'est-à-dire que quand tu vas te balader quelque part et que tu dis « Waouh, c'est extraordinaire !» Eh bien, ça fait partie de la Avodat Hashem. C'est un courant qui n'est pas du tout évident. Alors, certains vous diront dans l'académie qu'il a pris ça au Zerem à Soufi, à la Shita, à l'idéal Soufi dans l'islam, ou pas. Mais il n'empêche qu'on voit chez Rabbi Eliyahu di Vidas une importance très grande sur le fait d'être en émerveillement devant la création, devant les situations du monde, et particulièrement d'être en extase devant le lien amoureux entre un homme et sa femme. Rabbi Eliyahu di Vidas ira beaucoup plus loin dans son livre Reshit Chochma en disant cette phrase incroyable: « Mi shelo tam avat isha lo yachol leov et hakadosh baruch. C'est une phrase extrêmement forte et extrêmement terrible. Quand on sait qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas mariés, qui ne se sont jamais mariés, dire Rabbi Eliezer Vidas, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de sa femme, eh bien, il ne peut pas aimer Dieu. Parce que, évidemment, que mon rapport à Dieu ne peut pas être authentique, dans le sens où ben, je ne sais pas ce que c'est, l'essence du divin. Donc, je ne peux passer que par ces dévoilements. Eh bien, dire Rabbi Eliezer Vidas, le dévoilement ultime du divin passe par la relation de couple entre un homme et sa femme. Et donc, si tu n'as pas l'un, eh ben, tu ne peux pas avoir l'autre. Ainsi donc, le propre de la compréhension de la Torah ne peut se faire que par l'union entre un homme et sa femme. Et il va donner... Et c'est pour ça qu'il va expliquer dans son livre Rishit Rochma quelque chose de fantastique. Vous savez, la Mishnah, dans le traité de Brachot, nous explique que un chatan, le soir de ses noces, il est patour de Kriyat Shema. Chatan, Belaïla Rishon, patour de Kriyat Shema. Alors, pourquoi est-il dispensé de faire le Shema à ce moment-là? Eh bien, d'après la Mishnah, d'après la Halakha, on nous dit que c'est parce qu'il est taroud. C'est parce qu'il est préoccupé dans sa tête, il n'arrivera pas à se concentrer sur le schéma parce qu'il est préoccupé de la nuit qu'il va passer avec sa future femme, enfin avec sa femme là maintenant. Maintenant, pourquoi il est taroud, nous dit la Gemara? Eh bien parce qu'on parle d'une femme qui serait vierge, pas d'une femme qui se remarie, parce qu'il sait, on lui a expliqué que cette union se passerait un petit peu de manière compliquée parce que la femme risquerait d'avoir mal, et donc il est préoccupé par ça, il n'arrivera pas à se concentrer dans son schéma. Ça, c'est la dimension halakhique. Mais nous dit Rabbi Eliezer Vidas dans son livre Rishit Rochma qu'au-delà de la dimension halakhique, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce que c'est dire le schéma? Dire le schéma, c'est proclamer haut et fort l'unité du Créateur. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Or, lorsque un chatan s'unit avec sa femme, et uniquement lors de la première union, lorsqu'il s'agit d'une femme qui n'a pas eu d'union avant, hein, nous dit la Gemara dans Maseret Nida que, de manière générale, Biya Rishona, la première union, n'entraîne pas de fécondation. Alors, je ne sais pas si c'est vrai au niveau gynécologique ou pas, mais la Gemara nous dit qu'a priori, lors d'une première union, eh bien, il n'y a pas de fécondation. Alors, la Gemara parle là-bas du sang qui pourrait arriver dans le narthik, dans le vagin à ce moment-là, qui, semble-t-il, rendrait impossible la fécondation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas au niveau gynécologique, je ne suis pas gynécologue, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, nous dire à Bélo de Vitas, la première union, si elle n'est pas là pour faire des enfants, alors elle est là pour quoi? Eh bien, elle s'appelle Biyat Mitzvah. Alors quoi, Mitzvah? Mitzvah de concrétiser l'union des Nisouin? Pas que. La mitzvah de dévoiler dans ce monde que Echad ve'od Echad ve'Echad. Que l'union de deux êtres différents dévoile ma mâche d'unité. Je ne vais pas vous faire un dessin pour vous expliquer que l'union entre un homme et sa femme dévoile l'unité. Et donc, nous dit Rabbi Eliezer Vidas, pourquoi est-ce qu'un chatan, lorsqu'il est en première union avec sa femme, il n'est pas tour de Kriyat Shema? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de dire le schéma. Il est le schéma à ce moment-là. Avec sa femme, ils sont Kriyat Shema. Et donc, il n'a pas besoin de le dire. Vous comprenez qu'on fait ici face à une réalité de dévoilement de la Torah qui est, j'ai envie de te dire, d'un domaine complètement différent. Là, on parle de la connexion directe avec l'essence de l'être. Et c'est peut-être ça qui est l'enseignement principal de Rabbi Eliezer Vidas. Être connecté avec l'essence de l'être. Et voilà ce qui va amener la conclusion de 2000 ans de tradition. Nous avons dit, tout d'abord, Rabbi Shlomo Elkabetz, la demande de la Géoula et l'entièreté de la Torah. Rabbi Moshe Mitrani qui nous dit, pour arriver à cela, il faut demander. Et donc, c'est la tfila et l'importance de la demande dans la tfila. Et ensuite, nous avons dit Rabbi et Rabbi Moshe Cordovero qui vient nous expliquer que tout prend sa source dans l'éternité du Ein Sof, ce qui va permettre eh bien, à toutes les créatures ensemble de dévoiler justement leur côté de l'infini, c'est-à-dire Rabbi Eliaou Dividas. Eh bien, tout ceci ne peut se ressentir et se vivre que par le prisme de ce qui réalise la notion d'unité avec eh bien, l'union entre un homme et sa femme. Rabotai, c'est Pele, Pele, Floim. C'est absolument fantastique, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit ici d'une Zgirat Ma'agal. On a vraiment l'impression qu'il s'agit ici d'une conclusion avant quelque chose d'extraordinaire qui va arriver la semaine prochaine avec la Torah du Harizal. Les amis, c'est de cela dont on est en train de parler. Mais avant de vous laisser poser les questions par rapport à cela, eh bien, nous devons arriver à une dernière conclusion. Une dernière conclusion de ces 2000 ans de transmission avant le Harizal, eh bien, cette dernière conclusion, elle nous provient de Chachmé Théman. Ah bah oui, tiens, on les avait oubliés, ceux-là. Chachmé Théman. Il y a un homme qui s'appelle Rabbi Ishayahu Me'ako. Alors, Rabbi Ishayahu Me'ako, vous allez vous dire, mais il n'est pas Thémani. Non, il n'est pas Thémani, enfin si, il est Thémani. Mais il vient à Akko. Il arrive en Eretz Israël, mais il porte avec lui une tradition qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas encore évoqué, juste deux secondes. Voilà, je sors du bruit. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est une tradition qu'on n'a pas encore évoquée. Yahadut Théman. Et pourtant, Yahadut Théman, comme ce qu'on évoquera dans 100 ans, Yahadut Chachmé Chalab, des sages de Syrie, eh bien, nous avons ici aussi une Yahadut extrêmement florissante avec des Chachamim extraordinaires. Eh bien, Rabbi Ishayahu Me'ako, lui, arrive avec une Torah ta Kabbalah qui semble être complètement détachée de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que le judaïsme du Yémen n'a pratiquement pas eu de contact avec l'extérieur. Il y avait des lettres. On a vu le Rambam, à son époque, il a été en contact avec Chachmé Théman et avec Yahadut Théman. Mais de manière générale, ils étaient complètement isolés. Résultat des courses, ils ont développé une Torah qui est leur Torah. Et lorsque Rabbi Ishayahu arrive à Akko, eh bien, il est perçu comme étant différent. Pourquoi ? Quelle est l'essence de la Torah ta Kabbalah de Yahadut Théman ? Achibour et la Haaretz. Achibour. Achibour, concrètement, c'est-à-dire qu'il faut devenir agriculteur. Il faut travailler la terre. Vous allez me dire, mais parce que c'est ce qu'ils pouvaient faire au Yémen. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce que si on parle de Géoula, si on parle de reconstruction, eh bien, on doit prendre part active à cette reconstruction. Voilà, les amis. Comment est-ce qu'on vient conclure 2000 ans de transmission de Torah Tassod pour se préparer à la révolution que va être la Torah du Hari? Est-ce que ça veut dire que à partir de maintenant, plus personne ne va se revendiquer des Chachamim qu'on a évoqués jusqu'à maintenant? Bien sûr que non. Le Harizal va amener une révolution qu'on va aborder la semaine prochaine. Mais cette révolution ne vient pas dire « j'efface tout ce qu'il y avait avant ». C'est une révolution qui va nous permettre d'aborder la Torah, Torah Tassod, eh bien avec un nouveau langage qui nous permettra d'éclairer tout ce qui a été enseigné pendant 2000 ans. Donc ça, ce sera le grand apport du Harizal, ce que nous verrons la semaine prochaine. Et c'est le moment des questions. Alors juste avant que je vous laisse prendre la parole, j'ai entendu ce qu'a dit David. Effectivement, si je vois que dans l'avenir il y a un endroit, je sais que je serai à un endroit où ça ne capte pas, ou J'ai tellement pas envie de vous abandonner le dimanche matin que j'essaye à chaque fois, comme la semaine dernière où j'étais à Paris et comme ce matin où je suis dans une autre partie du pays. Mais Bezrat Hashem, de toute façon, c'est pas prévu pour le moment. Et si je sais que c'est un endroit où j'arriverai pas à capter, eh bien, je dirai à David et je passerai mon tour. Mais bon, Bezrat Hashem, c'est pas prévu pour le moment. C'est à vous, les amis.
Ah, vous avez parlé, et vous m'entendez? Vous nous entendez?
Alors, je ne vous entends pas.
Ok.
Je ne vous entends pas. Allô, allô, Houston? C'est moi qui bug ou c'est pas moi qui bug?
C'est vous qui buguez.
J'ai pas l'impression de bugger.
Alors, vous nous entendez ou pas?
Moi, je vous entends, ouais.
Ah, Zachary Bechavod.
Ok, parfait. Vous avez parlé du lien qu'il y a entre Torah Takabala et toujours qui est toujours connecté à la terre d'Israël et à la Géoula. Est-ce qu'il y a une correspondance entre Torah Takabala et ce que le Rav Kook appelle Torah Israël, et c'est exactement la même chose ou il y a une nuance?
Bah, le Rav Kook va le Rav Kook, bon d'abord on est 400 ans plus tard.
Bien sûr.
Le Rav Kook mais le Rav Kook effectivement sa Torah Tagoelet, ce qu'on appelle le Rav Yehuda appellera Torah Goelet, la Torah de la Géoula, évidemment qu'elle est complètement ancrée. Le masterpiece du Rav Kook, le livre Oroth, commence par Eretz Israël. C'est-à-dire toute la première partie du livre Oroth vient nous expliquer que si tu n'as pas compris le lien avec la terre d'Israël, eh bien tu n'as rien compris à la Torah. Donc évidemment que c'est complètement relié, c'est évident. Le Rav Kook va tout simplement traduire cela avec un langage du 19e siècle et du nationalisme.
Merci.
Oui, hein. Il y a une autre question?
Vous pouvez muter vos micros, allez-y, Yocheved.
Yocheved, oui, vas-y.
Vous êtes en mute. Attendez.
Là, vous m'entendez, Raph?
Oui.
Merci pour votre cours. C'est toujours pour moi difficile de réagir ou de formuler une question après le cours parce qu'il y a beaucoup de d'informations, de connaissances. Mais en vous écoutant et en écoutant aussi l'époque dans laquelle nous vivons, j'entends dans l'enseignement de cette période-là que vous présentez dans le cours d'aujourd'hui, c'est proche des questions qu'on se pose, que notre société se pose aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la fin d'une époque industrielle. Et depuis fin 18e, début 19e, la plupart des sociétés occidentales progressivement se sont construites autour d'une approche industrielle de la relation aux ressources que contient la Terre, alors qu'on arrive aujourd'hui, et qui est lié à l'idéologie du progrès, et on arrive aujourd'hui avec, par exemple, les phénomènes de changement climatique, à se poser la question de ce mode de relation à la Terre qui est extrêmement consumériste, dévorateur des ressources.
Oui, vous avez raison.
Et dans les enseignements que vous avez présentés dans le cours d'aujourd'hui, il me semble qu'on met en avant, en tout cas, on a de quoi apporter à la conscience d'aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, mais c'est pas la seule façon de le faire, mais il y a un lien qui peut être fait entre cette prise de conscience de cette époque-là, du fait que la relation à la terre, et notamment le modèle de relation à la terre que propose l'agriculture, peut être aussi une source d'inspiration pour la manière dont on organise nos sociétés. Et par ailleurs, la société d'Israël, la société hébraïque avant le quatrième exil, était organisée en fonction de la relation à la terre. Donc, oui, ce n'est pas le modèle industriel. L'halakha n'était pas basée sur un modèle industriel.
C'est évident. De toute façon, on ne peut pas parler de modèle industriel.
C'est évident, mais il faut en prendre conscience. Il faut tirer les conséquences de ça. Ça, c'est un aspect qui est un peu une réaction, une manière de formuler la manière dont je reçois votre enseignement. Et deuxième, c'est le fait que il me semble que dans la Torah du Sod, et c'est une question que je pose aussi, l'expérience corporelle humaine, avec l'expérience existentielle humaine, est centrale. Et c'est un enseignement qui renvoie constamment à une prise de conscience, à une élaboration, à un travail sur ce que c'est l'expérience humaine, corporelle, du fait de l'existence corporelle.
Non, tout à fait, tout à fait. Là-dessus, on peut tout à fait voir la
et
différence.
Et cette question est liée, en fait, elle est connectée avec la première. Ça, c'est...
Oui, bien sûr. On voit ici très bien la différence entre la Torah du Ramak et celle du Rambam, où le Rambam nous dit que le seul moyen de pouvoir se rattacher à Dieu, c'est derer ha-sechel, c'est grâce à l'esprit, alors que pour le Torah Taramak, ça passera également par le corps et par la neshama, c'est-à-dire que de manière autant spirituelle que matérielle. Donc effectivement, le fait de faire participer toutes les forces de l'être au dévoilement divin, c'est le propre de l'enseignement de Torah Takabala. Bien sûr, il ne peut pas s'agir que d'une Torah qui se dévoile de manière intellectuelle, spirituelle, mais bien au contraire, elle doit être également ancrée dans les expériences du corps. Bien sûr, tout à fait.
Et cette manière-là de dévoiler...
Attendez, Révette, il faut qu'on donne aussi un tout petit peu la parole à d'autres personnes.
Avec plaisir. Je vous remercie.
Avec plaisir. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui voulait poser une question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah bah alors, sinon on redonne la parole à Révette. Alors, Révette, vous pouvez reprendre la parole.
Je vous remercie. Et donc, cette façon-là de dévoiler le message, elle me semble cohérente avec un mode de vie en société qui, justement, met l'accent sur la relation à la terre, la relation à la nature, la relation à l'environnement, sur un autre mode que celui d'une société industrielle.
Il ne s'agit pas ici de venir remettre en cause toute la modernité et toute l'industrialisation. Je vous explique. Parce que, justement, si on parle de Géoula comme étant une amélioration du monde et une élévation du monde, eh bien, il est évident que tous les progrès amenés par l'industrialisation ne sont pas forcément tous mauvais. La surconsommation, évidemment,
bien évidemment,
l'est.
Bien évidemment, donc, je parle de consumérisme, d'excès.
Voilà. Donc ce n'est pas l'industrialisation en soi qui est problématique, c'est la surconsommation. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas ici de venir dire l'idéal du judaïsme est de maintenant d'abandonner toute forme de modernité, de revenir de vivre dans des tentes comme nos ancêtres. C'est pas du tout de ça dont il est question.
Vous faites très bien de me dire, c'était m'aider à préciser ma pensée. C'était pas ça mon idée. C'est pas le retour à la nature dans le sens de on abandonne toute civilisation. C'est pas ça. C'est un retour à un mode de relation. À l'action, à une action individuelle, mais aussi à une action collective, le retour à un mode d'action collectif qui est en équilibre avec la nature et avec le dévoilement de la Torah.
D'accord, vous avez raison. Yafé Meod. Eh bien, les amis, Chazak ou Baruch.